cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Cultivons notre jardin. Donc émission présentée par Nat, moi-même et Jackie, celui-là qui est en face de moi. Salut
bonjour.
Jackie.
Bonjour Nat, bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Eh bien ça va plutôt bien, on a un bel automne, donc il y a eu de l'eau, voilà, le jardinier est content.
Plein de belles couleurs.
Ouais, en plus.
Ça c'est chouette. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui à nos chers auditeurs et auditrices ?
Eh bien, on avait prévu de parler d'un phénomène, le web des bois.
Le web des bois, le Wood Wide Web, 3W, voilà. Comme le World Wide Web, mais dans la forêt cette fois-ci.
Alors, on va essayer de développer un peu ça.
Oui, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, on entend parler très souvent, depuis quelques années, du Wood Wide Web. Wide Web, pardon.
Ah, le et bois donc, sauvage, c'est compliqué.
Voilà, bah, vous comprenez tout l'intérêt de l'émission, c'est de nous écouter dire Wood Wide Web. Voilà, soit Jackie, soit moi, chacun notre tour, on va vous le faire, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire ? Ben, cette affaire, j'en ai entendu parler une nouvelle fois dans la tête au carré, de la Terre au carré maintenant, de Mathieu Vidard. Et puis, il y a un bouquin aussi qui est sorti là, il y a quelques années, qui fait pas mal de bruit. Et donc, l'Internet des sous-bois, qu'est-ce que c'est ? Donc, il s'agit en fait d'un réseau qui a pour fonction de relier les arbres entre eux, les
oui,
arbres d'une
absolument.
Forêt, hein, entendons-nous bien, grâce à des milliers de kilomètres de micro-connexions tissées entre elles. Mais alors comment ? En fait, ça fait une petite vingtaine d'années seulement que les biologistes ont identifié cette vie invisible du sous-sol. Et ça a complètement en fait, bouleversé notre vision de la forêt. Alors qu'on pensait que les arbres étaient aussi impassibles que des bûches, cette découverte a révélé un système très sophistiqué qui en fait permet aux arbres de se parler, de communiquer, mais aussi de s'alimenter, de se soigner et de se transmettre des informations précieuses sur leur environnement. Donc nos arbres en forêt communiquent. Mais concrètement, à quoi ça ressemble ce réseau ? Jackie, tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Eh bien, on va essayer de faire comprendre un petit peu tout ça. Tout le monde connaît facilement, là, surtout à l'automne, les champignons, hein, que ce soit les cèpes, les coulemelles, les girolles, etc.
Mais champignons, au passage, excellents pour votre microbiote intestinal, n'hésitez pas à en manger.
Voilà. Mais peu de gens savent que ces champignons connectent entre eux, justement, ces arbres, les plantes et même d'autres habitants du sol et du sous-sol. Et alors, tout ça, c'est grâce à un incroyable réseau souterrain. Disons que, pour être tout net, que sans eux, eh bien, il n'y aurait pas de forêt. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est l'Internet des bois. Donc, le 3W, soit le Wood Wide Web.
Oh, comme tu le dis bien, Jackie.
Je suis entraîné. Hein. Alors, sachez que sous les mousses et sous les feuilles des sous-bois, se développe ce qu'on appelle le mycélium. Alors,
oui.
Le mycélium, c'est un vaste réseau de filaments, plus ou moins microscopiques, qu'on appelle les ifs.
Les quoi ?
Les ifs. Alors, pas comme l'arbre. Pas comme l'arbre qui s'écrit IF, mais là, ça s'écrit H-Y-P-H-E. Alors, il faut savoir que dans un seul mètre cube de terre forestière, on peut trouver jusqu'à 10 000 kilomètres. Je dis bien 10 000 kilomètres de ces filaments.
C'est énorme.
C'est énorme. Par comparaison, sur une surface agricole, il y en a 100 fois moins.
Et forcément, quand on gratte, on coupe le filament.
Voilà. Alors, ce réseau, donc, il va relier les racines entre elles. Il permet, comme tu disais, les échanges. Des échanges d'abord de nutriments, mais aussi beaucoup d'informations. On y reviendra. Ce mycélium permet aussi de décomposer tout simplement les feuilles, les bois morts tombés au sol. Sans lui, les sols de nos forêts, ils seraient ensevelis sous des tonnes de feuilles et de branches. Et donc, merci à ces champignons.
Le mycélium, il permet de décomposer les feuilles. C'est bizarre. Comment il se crée ce mycélium ?
Eh bien, en fait, on va essayer d'être assez clair là-dessus.
Oui,
c'est à partir des champignons que nous connaissons. Hein, on en revient toujours à ça. Il faut imaginer qu'ils jouent le même rôle que la pomme de nos pommiers. Ce sont les fruits du champignon proprement dit. Parce que le champignon proprement dit, c'est l'ensemble du mycélium plus les fruits qu'il y a dessus, puisqu'en fait, les champignons que nous, on voit, ce n'est que 10% de la masse totale du champignon.
Oui, non, mais les gens, ils vont gratter maintenant quand ils vont trouver un champignon dans la forêt, Jackie, avec tes indications.
Il ne faut surtout pas gratter, parce que le mycélium, on ne le mange pas. Non. Et puis donc, ce qui est intéressant, c'est quand la toile est vraiment tissée comme ça. Alors, les champignons, on va y revenir. Donc, ces excroissances, hein, ces fruits, quoi, si on veut, ils vont pousser, se développer, ils mûrissent et ils libèrent une quantité énorme de spores. Les spores, alors là aussi, c'est S-P-O-R-E-S, hein, est-il utile de le préciser, ce sont des sortes de graines porteuses du patrimoine génétique du champignon. Alors, ces spores, ils retombent sur le sol et dans l'humus, ils germent et se transforment en filaments.
Alors, quand on va cueillir des champignons, Jackie, c'est pas la peine de laisser la queue.
Non, ça, c'est des croyances. Hein. Beaucoup de gens cherchent à abîmer le moins possible. Alors, l'idée
est chouette, hein,
en soi. Mais sachez que moi, ce que je préfère faire, c'est quand je vois un champignon qui est un peu trop vieux, eh ben, de le laisser en me disant, mais attends, si je le laisse celui-là, justement, il va libérer ses spores, il va refaire des filaments, enfin, des spores, des filaments, et donc recréer du champignon comme ça. Donc, laissons les champignons qui sont un petit peu vieux. À titre d'exemple, moi, ça m'est arrivé dans mon verger. Là, j'avais une coulmelle qui était un peu avancée au pied d'un arbre. Je l'ai laissée. Je suis repassé 3 semaines après. Et ben, j'avais 2 coulmelles à côté.
Ah, direct.
Et donc, qui étaient petites. Mais voilà, parce que ça a étendu le réseau de mycélium, en fait. Et donc, il faut bien arriver à comprendre ça. C'est effectivement pas vraiment utile de couper le champignon à la base. Vous savez, les mycéliums, ils sont microscopiques. Ils se refont, ils se retissent. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Donc, j'en étais à... donc ces spores qui ont germé, qui ont fait des filaments, et donc ce nouveau mycélium, qu'est-ce qu'il va faire? Il absorbe les nutriments de son environnement et puis il croît, alors là, de manière exponentielle, hein, ça pousse très très vite et très très large. Il a tout un arsenal d'enzymes protectrices qui lui garantissent un système immunitaire. Hein. Donc, quand il y a des choses en décomposition, etc., qui pourraient être nuisibles pour lui, eh bien, il a des enzymes qui lui permettent de lutter contre toutes sortes de petites maladies qui pourraient nuire à son développement.
Le mycélium, il sait se protéger tout seul.
Voilà, exactement. Alors, il faut savoir que les champignons, comme ça, sont associés aux arbres depuis plus de 450 millions d'années.
Pire que les dinosaures.
Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est quand les algues sont sorties de la mer que tout ça, c'est grâce aux champignons qu'ils ont pu, à l'air libre, commencer à vivre comme ça. Ah. Donc, ça a colonisé les terres émergées au départ. Alors, les champignons, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fournir de l'eau, hein. Ça, c'est très important, surtout...
Parce qu'ils la retiennent, c'est ça?
Surtout, oui, ils la condensent, hein, voilà. Donc ça, c'est important. Ils vont contenir aussi des acides aminés et des sels minéraux. On entend toujours parler de ces oligo-éléments dont les plantes ont besoin. Mmh. Et ils vont surtout donner de l'azote et du phosphore. Hein, donc l'azote, c'est toujours intéressant pour la pousse en vert, et phosphore pour la floraison et fructification. Alors tout ça, bah, ils le puisent eux-mêmes dans le sol, ce qui permet aux arbres de mieux se développer et surtout de mieux résister à la sécheresse. Hein. Voilà un domaine qui est très très important maintenant.
Et c'est vrai que chaque arbre a son champignon ami ?
Absolument. Il y a des variétés de champignons qui vont aller avec des variétés d'arbres, même avec des espèces d'arbres. Hein. Ainsi, ben, on sait que, par exemple, les girolles, on va les trouver plus facilement sous des châtaigniers ou des hêtres, par exemple. Voilà, et tel type de champignon va être un petit peu inféodé. On le voit aussi même... pas obligatoirement dans les arbres. Hein. Revenons par exemple à toutes les plantes. Il y a la pleurote du panicot. Donc, qui est le panicot, c'est un chardon. Et justement, il y a du mycélium qui va se développer au niveau de ses racines, qui va aider le chardon. Et puis, on va pouvoir cueillir des oreillettes.
Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est l'oreillette, ça, la pleurote du panicot. On en trouve sur le cos, effectivement, où on n'a pas vraiment d'arbres.
Voilà,
avec le chardon.
Mais même, on peut le voir sur d'autres plantes herbacées. Hein, regardez les rosées des prés. Les rosées des prés, c'est bien un féodé à de l'herbe. Racines de graminées.
Il n'y a pas que les arbres qui ont leurs champignons amis.
Voilà.
Il y a même une orchidée qui est dépourvue de chlorophylle. C'est la néotinie d'oiseau. Elle est donc, du coup, comme elle n'a pas de chlorophylle, elle est incapable de photosynthèse. Alors, pour vivre, elle s'associe avec un champignon vivant en symbiose avec un arbre et elle intercepte la nourriture qui circule sans rien donner en retour. Comment on appelle ça ?
Eh bien là, c'est une plante parasite.
Et voilà, c'est un parasite. Elle fait quand même une fleur, c'est toujours ça.
Oui, mais ça l'arbre, lui, ça lui est un peu égal. Voilà.
Ouais, je comprends.
Mais je peux continuer là-dessus, parce qu'effectivement, par contre, au niveau des champignons des bois, il y a un échange. Il y a un échange, puisque, comme je disais, vu tout ce qu'ils apportent, les arbres vont aussi leur donner des choses.
Ah.
Ils livrent ces arbres à leurs auxiliaires entre 10 et 40% des sucres qu'ils fabriquent grâce à la photosynthèse.
Ah, c'est gentil. Hein ?
Donc les champignons, là, c'est eux que j'appelle les auxiliaires. Hein. Ils vont fournir aux champignons jusqu'à 40% de sucre.
Non, c'est les arbres qui fournissent aux champignons.
Voilà, c'est ça.
Pas les champignons aux champignons.
Voilà, oui, les arbres fournissent 40% des sucres qu'ils fabriquent grâce à la photosynthèse. Alors là, imaginons quand même un grand hêtre, par exemple, ou un grand pin. C'est énorme au niveau de la photosynthèse, tout ce qui peut se passer.
Oui.
Donc on peut se dire, mais c'est incroyable quelle quantité ils vont apporter aux champignons. Et c'est là où on comprend mieux qu'on parlait tout à l'heure de 10 000 km au mètre carré. Donc il faut alimenter tout ça aussi en sucre. Et donc c'est très très important cette coopération entre les arbres et les champignons.
Donc le champignon, c'est ça qui m'étonne, le champignon, donc il se nourrit de sucre en fait, du sucre produit par les arbres, issu de la photosynthèse des arbres.
Et pour lui, c'est indispensable pour produire ses fructifications.
Ouais.
Ces fructifications, c'est nos champignons, c'est nos cèpes par exemple.
Je crois qu'il y a du sucre dans le champignon derrière.
Alors ce sont des sucres. Des sucres, ça ne veut pas dire, c'est pas le sucre comme celui qu'on extrait de la betterave. Hein.
Oui.
C'est en fait une alimentation pour les plantes. Quand on voit que sur n'importe quel arbre, la sève brute, hein, je l'ai dit déjà, mais rappelons-le là, elle monte dans les feuilles, photosynthèse avec la lumière, et en fait, la sève élaborée, c'est donc une sève qui va être chargée en sucre.
Oui.
Ce sucre permet à la plante de se développer, de faire plus de feuilles, plus de branches, plus de fruits, plus de fleurs, plus de racines.
Toujours plus, Jackie.
Voilà. Alors bon, il faut savoir aussi que ces filaments, là, c'est un réseau Internet, comme on le disait plus tôt. Des expériences, hein, parce qu'on est en train de faire beaucoup d'expériences à ce niveau-là. On n'a pas tous les résultats, mais en tout cas, ça s'expérimente beaucoup. Et ils ont déjà révélé qu'il y a des signaux d'alerte, par exemple, qui transitent par ce biais. Hein. Donc, les arbres se prévenant entre eux. Alors, on ne sait pas trop s'ils se préviennent ou s'ils... une racine en prévient une autre du même arbre, par exemple, mais grâce aux champignons. Hein, par exemple, un insecte phytophage qui vient attaquer, etc. On le voit avec certains acacias qui vont transformer un peu la qualité de leur sève pour faire disparaître. Donc il y a des signaux qui sont émis. On ne sait pas si c'est entre les racines d'un même arbre ou si... En fait, c'est certainement ça l'information, mais ce qu'il y a, c'est grâce à ce réseau-là, les autres arbres sont au courant et peuvent aussi se prémunir contre des attaques. Et
c'est pour ça
qu'on parle du web comme ça. Hein.
Voilà.
Il y a une communication, en fait.
Il y a une communication qui se fait. Si ça se trouve, Jackie, si ça se trouve, les arbres et les champignons, en fait, ils philosophent.
Si ça se trouve.
On ne sait pas.
Si ça se trouve, il n'y a pas que la poule qui philosophe.
Exactement.
Alors... sont transportés aussi dans ces filaments. Et là, c'est important aussi. Ce sont les bactéries, hein, les bactéries qui en fait, se servent de ce réseau web pour voyager. Une bactérie, elle est minuscule, elle a beaucoup de mal à voyager. Et donc, grâce à ces filaments et surtout à l'humidité qu'il y a dedans, ça va à une vitesse folle. Il faut savoir que les bactéries, eh ben, c'est la vie. Donc, heureusement qu'il y a ces champignons.
Ouais, il nous en faut plein des bactéries dans nous.
Voilà.
C'est bien. Bon, ben super, on approchait un petit peu du coup. Voilà, on a quelques explications sur ce fameux Internet des sous-bois. Si vous avez des questions, chers auditeurs, chères auditrices, surtout n'hésitez pas à nous les poser. Nous pourrions revenir dans une prochaine émission sur cette thématique avec grand plaisir, puisque je pense que les découvertes aussi... Voilà, sont faites régulièrement et régulièrement. On a de nouvelles informations sur ce fameux réseau micellaire qui permet dans les bois de communiquer.
On va suivre ça de près, de toute façon. Hein.
Ouais, on va suivre ça de près pour vous. Bon, en attendant, on va quand même faire une petite pause musicale. Et là, il y a un truc rigolo qui vient de sortir. C'est, tu te rappelles du groupe Elmer Footbeat ?
Oui, quand même.
Ils chantaient « Le plastique, c'est fantastique ».
Voilà, voilà. Oui.
Et bien, en fait, aujourd'hui, ils ont repris cette chanson, sauf que ça change un petit peu, puisque maintenant, ils ont changé toutes les paroles, et c'est le plastique, c'est dramatique.
Ils sont lucides.
Ils sont lucides, ces braves gens. Voilà, Elmer Footbeat, à tout de suite.
Qui finissent au fond des criques. Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. Bang bang, si t'as besoin de potes, lorsqu'il est temps de passer à l'action, prends tes copains, remue-toi la culotte. Si tu veux aller nettoyer les gros fonds, d'abord il faudrait des bateaux écolos. Toute une flotille pour nettoyer les eaux. C'est sûrement là que se trouve la solution. Si demain tu veux admirer les poissons, tous au Manta avec Yvan Bourdion. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Oui, oui, ça fout bien les chocottes de choper la mort et d'avoir des regrets. Vraiment trop nul ce qui se passe sur nos côtes. On vaut mieux que ça, c'est dans notre intérêt. Il faut de suite affréter plein de bateaux, car le temps presse, on est pris par le coup. Fais pas comme si tu l'avais pas su plus tôt. Si demain tu veux admirer les poissons, bienvenue au club avec Yvan Bourdion. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Et puis ne serait-il pas un peu trop facile de taire la chose, de ne rien faire jusqu'au bout, sans se faire biaiser, sans jouer les victimes. Faut prendre ses gants, on est dans jusqu'au cou. Avec nous le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, nous l'affirmons sans problème. Oui c'est mauvais pour les baleines. Le plastique c'est dramatique, le caoutchouc super fou, c'est une question de respect. Sauvons la mer de nos rejets. Le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastique c'est dramatique, le plastoc c'est super moche.
Eh bien voilà, après cette magnifique pause musicale, nous revoici avec Jackie, cette fois-ci pour une question d'auditeur d'actualité. C'est Séverine de Balsiège qui nous demande « Est-ce qu'il est trop tard pour repiquer mes fraisiers, s'il vous plaît, cher Jackie ?»
Alors, globalement, il n'est pas trop tard. Hein. C'est plutôt une bonne période. Depuis une fois qu'on a passé le 15 août, en fait, on peut tout à fait bien repiquer les fraisiers. L'intérêt de le faire à l'automne, c'est qu'on aura une belle floraison au printemps.
Hein.
On peut aussi le faire on peut aussi le faire au printemps. Ce qu'il y a, c'est qu'on perd quasiment une production. Quoi.
Mais jusqu'à quand, à peu près, on peut les repiquer, du coup ?
Tant qu'il fait beau. C'est-à-dire que ben, depuis plusieurs années, et puis là, ça a l'air un peu d'être parti comme ça,
oui.
Jusqu'à Noël, on n'a pas de gros problèmes de gel. Donc, tant qu'on n'a pas de gros problèmes de gel, on va pouvoir repiquer nos fraisiers.
Bientôt, on va pouvoir manger des fraises à Noël sans que ce soit une incongruité écologique.
Absolument,
et
absolument.
Oui.
De toute façon,
oui.
On y va tout droit. Hein.
Et on fonce.
Donc, on va essayer d'être précis, en tout cas, au niveau jardinage.
Hein, oui.
C'est le thème aussi de l'émission.
C'est l'idée.
Donc, en fait, il faut savoir que les fraisiers, ils donnent beaucoup de fruits. Et comme des petites plantes comme ça qui donnent beaucoup de fruits, ils s'épuisent.
Oh.
Donc, il est toujours intéressant de remplacer, de faire une espèce de rotation entre les planches de fraisiers. On estime qu'il faut à peu près 4 à 5 ans pour que les fraisiers donnent le maximum de leurs possibilités. Vous aurez sûrement remarqué que les fraisiers, ils vont avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des stolons.
Ouais,
des stolons, c'est une petite tige qui pousse. Au bout de cette petite tige, on va avoir un petit fraisier qui va faire quelques racines. Une autre tige va pousser d'autres fraisiers.
Je dans, oui.
Et voilà. Alors, on peut récupérer... tous ces petits pieds de ces plants, en fait, hein, de fraisiers. Il faut savoir qu'on a intérêt à prendre plutôt ceux qui sont près du pied mère. Hein. Ils sont plus vigoureux. N'hésitez pas, si vous voyez que le développement racinaire n'est pas assez bien fait, on en prend un autre. Ce n'est pas grave du tout. Normalement, ça produit beaucoup de petits. Hein. Donc, je vais prélever ça. Plusieurs personnes que j'ai vues mettent des fois un petit pontet en fer sur la petite tige. Comme ça permet de mettre les racines en contact avec la terre. Et souvent, le racinaire se fait avant même qu'on ait coupé le stolon.
Tu veux dire qu'avec un petit U en fer, clac, il coince le stolon bien près de la terre, c'est
bien
ça
près de la, sur la terre.
Sur la
et
terre.
Et puis donc, comme ça, comme il est
ça
sur la terre,
plus.
Il va développer comme s'il était sans contact avec le pied mère. Et donc, on peut comme ça avoir des très jolis plants. Ça peut même se faire dans un godet.
Oui, parce que sinon, le stolon, il se balade et selon ce qu'on a sur la terre, il peut être à quelques centimètres du sol, finalement,
et avec
commencer
le vent,
à essayer de développer
de
des racines, mais être un peu embêté.
Voilà,
quoi.
Avec le vent, de bouger, etc.
D'accord.
Donc, on va prélever donc, nos petits plants, comme ça. Et alors, donc, ensuite, eh ben, il va falloir les replanter. Alors là, il se pose plusieurs questions, surtout avec le réchauffement climatique.
Dérèglement ou réchauffement ?
Dérèglement.
Allez, dérèglement.
Dérèglement, mais qui va pour l'instant dans le sens de chauffer.
Oui, hein.
On en reparlera quand ce sera très froid.
Mm.
Mais pour l'instant, ça va plutôt dans le sens de chauffer. Pour l'instant, on a des étés qui sont très chauds. Et alors ça, ce n'est pas très pratique pour les fraisiers. Chacun a pu remarquer qu'au moment où les fraises commencent à bien donner, ça l'a fait cette année, clac, canicule dessus.
Ça
veut dire que les feuilles se sèchent, les fruits se dessèchent et on n'a plus grand-chose derrière. Alors, moi, j'ai une technique hein, pour essayer de compenser ça, parce que le fraisier est une plante qui n'aime pas l'eau. Il n'aime pas l'eau, mais il n'aime pas la sécheresse. Quand je dis qu'il n'aime pas l'eau, c'est que si on recouvre un petit peu le pied avec de l'eau, tout de suite, ça va pourrir. Alors, mon conseil, c'est qu'on va mettre les pieds de fraisier tous les 40 cm sur un rang.
Mmh.
Ce rang, on va le faire sur côte, c'est-à-dire, je te vois venir, C'est-à-dire que, un petit peu comme on bute les haricots ou les pommes de terre, on va se faire une butte comme ça, de l'ordre de 20 cm de haut, en longueur comme ça, et mon rang est au sommet de la butte.
D'accord.
Ce qui va permettre que les fraisiers ne se retrouveront jamais avec un excédent d'eau, qui est très mauvais pour eux. D'accord ? Tu me suis ? Donc, tous les 40 cm, on va mettre notre petit fraisier. Et donc, je me fais 3, 4 rangs comme ça. Et en fait, entre mes buttes, je vais pailler. Je vais pailler avec du BRF, c'est l'idéal. Parce que comme ça, je pourrais marcher dessus. Alors, imaginez bien le truc.
Entre
les buttes. Et comme ça, j'ai tout qui est au même niveau. Je n'aurai pas besoin de paillage parce que le BRF, c'est propre. Et surtout... Le BRF va me servir de paillage et donc mes racines de fraisier vont maintenir une certaine humidité et je n'aurai pas besoin d'arroser pendant l'été.
Mais je n'aurai pas trop d'eau à la base du plant, donc il ne pourrira pas parce que l'eau va descendre.
Voilà, c'est une très bonne technique pour les fraises. Moi, je fais comme ça, je vous garantis que ça marche. Et donc, n'hésitez pas à faire ça quand vos fraisiers ont 2 à 3 ans. Allez, hop, on recommence une planche à côté. La première année, ils ne donneront pas grand-chose, mais j'ai déjà ma vieille planche, d'accord ? Et ensuite, l'année d'après, je pourrais virer mes fraisiers, y mettre autre chose. Et puis, alors, se souvenir aussi, je vous le rappelle, mais dans les associations de plantes, la fraise aime le poireau.
Je m'en suis rappelé de celui-là, yes !
Voilà.
Bon, c'est le titre d'un livre, je crois.
Oui, c'est exactement.
Ça peut aider à s'en rappeler.
Pour les associations de plantes.
Mmh. Bah super, merci Jacques pour tous ces conseils sur les fraises. Tu as tout dit ou tu en as oublié ?
J'espère avoir bien répondu à la question de Séverine de Balsièges.
J'espère, surtout n'hésitez pas Séverine à revenir vers nous si vous voulez plus de détails.
Ou pour autre chose, si ça vous a convenu. Alors après tout ça, on va pouvoir peut-être voir l'agenda des activités.
Oui, il en reste encore un petit peu à faire.
Et oui, puisqu'on est toujours à l'automne, là, ça va se dissiper un petit peu. Mais encore le samedi 9 novembre, de 14h30 à 17h30, il y a un atelier participatif de réparation de petits électroménagers à l'Antirouille.
Oui.
Hein, c'est dis-nous qui s'occupe de ça.
Place du Foirail.
Voilà. Et donc,
c'est dans le cadre du programme local de prévention des déchets Cœur Lozère.
Voilà. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est quand même quelque chose de fort intéressant. J'espère même que ce sera repris par les constructeurs pour qu'ils arrivent à faire du matériel qu'on puisse réparer.
Tu crois que c'est parce qu'ils n'y arrivent pas, toi ?
L'obsolescence programmée, c'est un moyen de lutter contre l'obsolescence programmée.
On est bien d'accord. Donc voilà, vous venez à cet atelier participatif le samedi 9 novembre à 14h30 à l'Antirouille avec, je ne sais pas moi, votre radio cassée, votre grille-pain cassée, votre je ne sais pas cassé. Et voilà, vous allez trouver des gens qui vont pouvoir vous expliquer, vous aider à réparer. Voilà, c'est super intéressant, c'est convivial. Et puis là encore, c'est un échange de savoir-faire, de savoir. Donc tout ça, ça va dans le bon sens.
Et il peut toujours y avoir des très bons conseils, même si vous n'avez rien. Moi,
si vous n'avez rien à réparer, ça peut arriver aussi.
D'y aller parce qu'on peut poser des questions, etc., avec des gens qui sont compétents.
Moi qui ne comprends rien à tout ça, c'est vrai que je ferais bien d'y aller. Tu as raison, Jacques.
Voilà. Suivez mon regard.
au hasard. Alors sinon, nous avons, Jardin Nature 48, ça change, qui organise une conférence sur le travail du sol du jardin en automne. Ce sera le mardi 13 novembre à 20h30 à Mende. J'imagine dans une des salles des associations, Jackie.
Exactement.
On est d'accord.
C'est souvent là. Hein. C'est encore Jardin Nature 48 qui organise un atelier de taille d'automne le samedi 16 novembre à 14h30 à Vébron.
Ah, Vébron, on y était il n'y a pas longtemps, Jackie.
Voilà, dimanche dernier.
Il faisait beau. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? On a les 16 et 17 novembre à Florac, à la salle des fêtes, le salon des fils et laine. Donc, un marché d'artisans créateurs, donc autour de la laine, évidemment, et des ateliers. Donc ça, c'est super sympa parce qu'ils sont en train d'essayer de relancer une filière laine dans les Cévennes. Et voilà, c'est très chouette. Ça vaut le coup d'aller y faire un petit tour. Il y a de très belles réalisations, des gens qui sont motivés. Donc, c'est chouette. C'est donc les samedis 16 et dimanche 17 novembre à Florac. Le samedi soir à 20h, vous pourrez même profiter d'un petit bal trad pour danser un peu avec Terra Poetica. et c'est organisé par l'association Créateurs des Cévennes.
Eh bien, on y sera. Alors, ah oui. Un dernier appel aussi pour... on peut parler de Verger de Lozère, qui sera à la Fête de l'Arbre à Saint-Jean-du-Gard.
Youpi !
Les 23 et 24 novembre.
Soyez-y.
Voilà, soyez-y. C'est très intéressant pour voir des bons pépiniéristes, demander des conseils. Et cette année, c'est la tomate qui est à l'honneur. Donc... ce sera sûrement hyper intéressant de pouvoir acheter des graines de tomates. N'hésitez pas à faire vos plans. On en reparlera au printemps, la manière de le faire. Hein, au début du mois de mars, là, ça vaut le coup de faire ses plans de tomates pour avoir des variétés anciennes qui sont vraiment très, très goûteuses.
Ouais, j'ai pas fait sécher mes petites graines de tomates encore, comme on avait dit, Jackie, il faut que je m'y mette là.
Oui, heureusement, moi j'en ai fait pas mal.
Merci, Jackie. J'espère. Bon, ben voilà, notre émission touche à sa fin. Voilà, en espérant que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. On va vous laisser toujours avec une pause musicale, tout en douceur, cette fois-ci avec Arthur H, qui nous chante La boxeuse amoureuse. C'est une chanson qu'il a écrite pour sa maman.
Et c'est sur son dernier album.
Exactement, une très belle chanson. Merci Arthur H. À bientôt, Jackie.
À bientôt et bon jardinage à tous.
Salut.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum la supercute, un percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups. La boxeuse.